Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Dans cette émission, je vous propose de lever le voile sur la psychologie cognitive de l'audition et plus spécialement la psychologie cognitive de la musique. De quoi s'agit-il, me direz-vous ? Eh bien, la psychologie cognitive de l'audition étudie comment le cerveau traite avec rapidité et efficacité les structures sonores de notre environnement et comment également l'information auditive contribue fondamentalement au développement de la connaissance. Ce domaine de recherche est utilisé dans l'industrie technologique et automobile pour éviter par exemple que le bruit du moteur de votre Ferrari ressemble à celui d'un tracteur, ce qui serait assez peu séduisant, vous en conviendrez. Mais intéressons-nous plus particulièrement à la musique. Comment l'auditeur parvient-il à transformer des vibrations d'une musique en un ensemble de signaux sonores ayant une qualité acoustique ? Quel est le processus qui va se mettre en marche pour qu'à l'écoute d'un morceau, cela vous provoque une émotion, une joie, une colère, une tristesse ? Comment expliquer par ailleurs que nous puissions reconstituer une mélodie pourtant non familière, comme si l'on devinait la fin de manière innée ? Existe-t-il une oreille musicale ? Cette oreille se travaille-t-elle ? Enfin, nous faisons jusqu'à présent référence ici aux compositions tonales, mais qu'en est-il de la mémorisation et de la reconnaissance de la musique expérimentale ? Pour répondre à ces questions, Stephen McAdams est avec nous en studio. Stephen McAdams, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Vous êtes psychoacousticien, vous étiez en visite à Paris pour une série de conférences sur le thème de la psychologie cognitive de la musique. C'était donc à la Sorbonne, fin mai 2008, à la chaire Alphonse Dupron. Vous repartez d'ici peu à l'université McGill, au Canada, où vous occupez la chaire de perception et cognition musicale. Donc la chaire de recherche du Canada, n'est-ce pas ? Et donc c'est à l'école de musique Schulich. Pour préparer ce sujet, je me suis basée sur votre ouvrage coécrit avec Emmanuel Bigan, « Penser les sons, psychologie cognitive de l'audition », paru au PUF, Presse universitaire de France, en 1994, mais également sur le CD-ROM que vous avez réalisé avec le compositeur Roger Reynolds, intitulé « The Angel of Death », l'ange de la mort. Et il constitue donc une étude très fouillée sur les processus psychologiques impliqués dans l'identification des sources sonores. Stephen McAdams, quel est le principe de ce CD-ROM, l'objectif de ces recherches ?
Nous avons commencé un travail collaboratif avec le compositeur américain Roger Reynolds et moi-même. On s'est rencontrés dans les années 80 à IRCAM où il travaillait sur une nouvelle pièce de musique. Et on est devenus amis et on a fait des échanges depuis des années autour de la relation potentielle entre les sciences de la perception et la composition musicale. Et l'idée, c'était de faire un projet où les deux éléments existent, une recherche scientifique sur les matériaux musicaux et sur la forme musicale, mais en même temps la création d'une œuvre de musique. Donc on a travaillé de façon très étroite avec le psychologue Emmanuel Bigan à l'Université de Bourgogne. Et Roger Reynolds avait créé cette pièce, L'Ange de la mort, en composant dans la structure de la pièce un certain nombre de possibilités et d'opportunités pour les psychologues de sonder un petit peu l'expérience musicale d'une grande forme de musique. Et il travaille de façon très systématique, ce qui rend facile le travail des psychologues parce qu'on a pu suivre la création, la conception, l'écriture de la pièce et on a pu faire des expériences sur les matériaux musicaux lorsqu'ils étaient composés et enregistrés. Et ensuite, on a fait des expériences en temps réel des auditeurs lors de la création mondiale de la pièce à Paris et également lors de la création nord-américaine à San Diego, en Californie, où travaille M. Reynolds.
Alors, nous allons bien sûr revenir en détail sur ces différents types d'auditeurs et les expériences que vous allez réaliser avec eux. Je précise que ce CD-ROM a été édité en 2005 par l'IRCAM. Alors, justement, concernant cette pièce musicale, The Angel of Death, c'est donc une musique expérimentale à laquelle eh bien, nous ne sommes pas forcément habitués, nous sommes plutôt habitués à une musique tonale.
C'est effectivement, cette pièce se trouve dans le, ce qu'on, je dirais, le genre la musique contemporaine, classique. Ce n'est pas une pièce de musique tonale ni métrique. Pourtant, le compositeur utilise des hauteurs et des durées et des timbres comme tout compositeur de musique tonale orchestrale, sauf qu'il a des processus d'organisation des matériaux qui sont dérivés en quelque sorte de l'approche sérialiste. Donc il crée des séries de hauteurs, des séries de durées, des séries de nombres qu'il utilise pour organiser les densités sonores, etc. Et donc cette approche conduit à une sorte de musique qui est différente de ce qu'on trouve avec la musique tonale. Pourtant, il y a certaines fonctions perceptives qui restent constantes. On perçoit certaines hauteurs qui sont plus importants que d'autres, donc ça crée des hiérarchies, on entend les changements de section comme dans la musique tonale, et donc il y a beaucoup de processus d'écoute musicale qui sont les mêmes pour les deux, sauf que l'auditeur n'est pas nécessairement familier avec les processus de création de ces structures.
Donc l'objectif de cette pièce, en la faisant écouter à un panel d'auditeurs, c'est de voir quels vont être les processus de mémorisation et de reconnaissance de la pièce.
C'est ça, on veut savoir comment les matériaux musicaux sont organisés dans la perception des auditeurs, que ce soit des musiciens ou des non-musiciens. On veut également comprendre la façon dont les auditeurs perçoivent ces matériaux lorsqu'ils sont agencés dans la pièce elle-même. Et puis, en fin de compte, on s'intéresse à l'interaction entre les matériaux et la forme lorsqu'on écoute toute la pièce qui dure 35 minutes. Et la structure nous permet de faire ça. Mais ce n'est pas simplement la reconnaissance et la perception des matériaux, mais également qu'est-ce que ça donne comme effet émotionnel, cette structure musicale, lorsque les auditeurs écoutent ça en salle de concert également.
Sur le CD-ROM, puisqu'il y a donc deux parties, la partie CD-ROM et la partie audio. La partie audio, on le retrouve, donc la pièce de Roger Reynolds. Dans le CD-ROM, il y a donc un schéma qui montre quel a été le procédé, donc en mélangeant des thèmes piano, des thèmes orchestre et des mélanges des deux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, cette pièce a été conçue avec beaucoup de dichotomies, donc opposant différentes choses. Une première dichotomie, c'est une sorte de concerto de chambre pour piano et ensemble d'instruments, avec des percussions, des cordes, des bois, des cuivres. Et d'autre côté, donc, il y a l'ensemble ou l'orchestre est opposé au piano. Et Reynolds avait créé des différents matériaux thématiques qu'il a composés pour les deux, parce que dans certaines parties de la pièce, ça arrive dans le piano, et une autre partie, ça arrive dans l'orchestre, et vice-versa. Donc il fait toujours ce contraste entre le matériau réalisé par le piano, qui a une sorte de timbre relativement homogène, et puis la partie réalisée avec l'orchestre, où les timbres sont beaucoup plus variés.
Quels vont être les résultats de cette étude qui, j'imagine, a été longue et dont l'analyse des informations a dû prendre beaucoup de temps ?
Il y en avait beaucoup, des résultats, donc il faut peut-être faire un petit choix. Un des résultats qui me semble très frappant, c'était la capacité des gens à percevoir les relations entre les différentes parties des thèmes et de contraster les différentes parties des thèmes entre les thèmes. Parce que Reynolds avait créé dans cette pièce cinq matériaux thématiques qui étaient un peu les personnages qui habitaient le scénario. Et l'intérêt là, c'était que chaque thème qui était assez long comme thème, c'est pas pop-pop-pop-pom, c'est quelque chose d'un peu plus long que ça. Il avait des thèmes qui duraient 23 secondes, d'autres qui duraient 1 minute et demie, donc les thèmes entre guillemets étaient presque les mini-pièces. Si on se réfère à Anton Webern, ça serait toute une pièce, 1 minute et demie. Et chacun de ces thèmes avait un certain caractère et certains matériaux, et on s'intéressait dans un premier temps à la perception de la cohérence de ces différents thèmes. Et les possibilités de confusion entre certaines sous-sections d'un thème avec des sous-sections d'un autre thème. Parce qu'il y a des endroits dans la pièce où Reynolds va en fait superposer les thèmes ou faire une transition entre un thème et un autre. Et l'idée serait de ne pas créer trop de confusion. Donc il a composé chaque thème comme étant très différent des autres. On a trouvé qu'effectivement, il réussissait au niveau de la perception des auditeurs à bien distinguer les différentes parties des thèmes. Mais il y avait certaines parties de certains thèmes qui étaient très liées à d'autres parties d'autres thèmes. Ça crée une sorte de pont entre les différents thèmes. Donc, par exemple, il y a dans le thème numéro 5, la cinquième sous-section, avait un certain couleur harmonique qui rappelle un petit peu le thème 3 et également une autre partie de la pièce qui est une sorte d'interlude pour piano et puis l'épilogue qui termine toute la pièce. Donc ça fait des sortes de résonances dans la mémoire de ces différentes parties qui se lient en quelque sorte. Donc c'est une façon de tisser des liens entre les différentes parties de la pièce dans la mémoire de l'auditeur.
Alors je vous propose d'écouter un exemple de ces thèmes dont vous nous avez parlé. Stephen McAdams, la pièce dure quand même 35 minutes. Ses auditeurs arrivent au cours de ces 35 minutes à retrouver des similitudes avec ce qu'ils ont entendu au tout début.
Ben effectivement, quand on fait dans l'expérience en salle de concert, en temps réel, on avait demandé aux gens d'ajuster la position d'un curseur sur un petit boîtier qui avait à un extrême ce que j'entends maintenant dans la pièce est complètement nouveau, je ne l'avais jamais entendu jusqu'ici dans la pièce. Et à l'autre extrême, c'était ce que j'entends est très très familier, je l'avais entendu presque à l'identique, plutôt dans la pièce. Évidemment, ça laisse toute une possibilité entre les deux. Je peux entendre quelque chose que je reconnais un petit peu parce que j'avais entendu quelque chose de ressemblant, mais qui n'était pas exactement comme ça, comme une variation d'un thème par exemple. Et les gens bougeaient les curseurs en temps réel lors de l'écoute de cette musique. Et comme ça, on avait une sorte de façon de sonder ceux qui percevaient comme étant liés de loin ou de près à des choses déjà entendues dans la pièce. Donc si un thème arrive et il revient et il est à l'identique, on va mettre le curseur tout en haut. Si un deuxième thème arrive, c'est complètement nouveau, donc le curseur va être en bas. Et on peut regarder comment les curseurs bougent à travers l'ensemble des auditeurs pour connaître ces choses-là. Alors, une chose qu'on voit, c'est la montée et descente des curseurs quand on fait la moyenne à travers l'ensemble des auditeurs. Nous montre des endroits où, effectivement, des gens reconnaissent que quelque chose est revenu. Et ces montées et descentes des profils temporels de reconnaissance sont très liées à la structure composée par le compositeur. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut voir qu'effectivement, quand un thème revient dans la deuxième moitié qui a été présenté dans la première moitié de la pièce, les curseurs montent et on sait que ah oui, les gens ont reconnu cette chose. Ou quand une deuxième version arrive et qui est très différente de la première, les curseurs descendent, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc c'est les montées et descentes qui nous indiquent leur degré de reconnaissance des choses déjà présentées.
Alors j'imagine qu'il devait y avoir une grande différence entre les auditeurs musiciens et des auditeurs qui n'étaient pas musiciens. J'imagine que dans votre panel, vous aviez un mélange des deux.
On avait effectivement un mélange des deux, enfin, toute une sorte de gamme de différences entre non-musiciens véritables et puis des musiciens professionnels adeptes de la musique contemporaine. Ce qu'on a trouvé, c'était qu'il y avait des grandes différences entre les gens, mais ils n'étaient pas facilement imputables à des différences d'entraînement musical, de formation musicale. Il y a des différences entre les gens, mais ce n'est pas nécessairement lié à leur formation musicale. On avait des non-musiciens, mais qui sont des grands mélomanes, qui se comportent exactement comme des musiciens professionnels, et vice-versa. Des musiciens professionnels qui se comportent comme des non-musiciens. Donc ça a l'air plutôt, à mon sens, mais c'est difficile à vérifier à ce stade-là de la recherche, que les gens ont des stratégies d'écoute différentes, mais ça ne dépend pas nécessairement de leur formation musicale.
Vous voulez dire que l'aptitude à être musicien n'a rien à voir avec l'écoute qu'on peut avoir de la musique ?
L'aptitude d'écouter et de comprendre la musique n'a rien à voir. Ce n'est pas d'être musicien ou non, mais c'est simplement la façon d'écouter. C'est le genre de recherche que fait Emmanuel Bigan à l'Université de Bourgogne, ici en France, qui est très intéressant. Il montre que dans la perception de la musique tonale, il y a beaucoup de choses qui sont très semblables entre les non-musiciens et les musiciens. Nous avons tous des connaissances musicales qu'on avait acquises au cours de notre expérience à écouter la musique dans notre vie. Et même si on n'est pas musicien, ça veut dire qu'on n'a pas fait un entraînement, une formation spécifique sur les matériaux musicaux, à travailler l'oreille, etc., on a toujours un cerveau qui a entendu et qui s'est structuré autour de la musique de notre culture. Donc on est tous des experts à l'écoute de la musique, comme on est tous des experts à parler le français ou l'anglais ou la langue de notre culture. On n'a pas besoin d'un entraînement spécifique pour ça.
Alors justement, dans le livre « Penser les sons » que vous avez publié avec Emmanuel Bigan, justement, vous en parliez à l'instant, et vous expliquez justement que, mis à part le nourrisson, on n'a pas une écoute naïve. En fait, tous les sons nous sont déjà familiers. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'une personne qui a un boîtier, donc lors de votre expérience, est-ce que ça veut dire que lorsqu'il pense reconnaître un son, en fait, il ne reconnaît pas réellement, comme si son cerveau l'avait intégré, mais sans que lui s'en... comment dire, est la perception réelle de ce son.
Ça, c'est tout à fait une possibilité. Et d'ailleurs, on avait essayé deux versions de cette échelle. On a commencé avec la familiarité, nouveauté, comme des extrêmes de l'échelle. On avait peur que, en fait, les gens mécomprennent le mot familiarité comme tout ce qui était familier par rapport à toute leur expérience musicale et pas simplement cette pièce-là. Donc on avait changé dans une deuxième version de l'expérience pour le mot ressemblance. Tout ce que j'entends maintenant ressemble plus ou moins à ce que j'avais déjà entendu depuis le début de la pièce. Et effectivement, il n'y avait pas grande différence entre les deux, donc nos peurs n'étaient pas très fondées, mais on ne peut pas exclure effectivement que si quelqu'un entend quelque chose dans la musique qui rappelle quelque chose qu'il avait déjà entendu dans sa vie, peut-être la semaine dernière, ou il y a un mois, ou il y a 3 ans, on ne peut pas savoir. Il se peut que ça donne pour cette personne-là une sorte de sensation de familiarité et ils vont bouger le curseur dans ce sens-là. On ne peut pas l'exclure.
Stephen McAdams, on marque une courte pause si vous voulez bien, avec une première moitié de la pièce, et puis vous nous direz juste après ce que nous venons d'écouter. A tout de suite. Émission Éclairage, toujours en compagnie de Stephen McAdams. Nous venons d'écouter un extrait musical. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet extrait ?
Cet extrait a été tiré du début d'une des moitiés de la pièce, The Angel of Death, de Roger Reynolds. Et cette pièce, on avait parlé des dichotomies dans la pièce. L'autre dichotomie est entre les deux moitiés de la pièce. La première moitié étant organisée de façon très claire et didactique, je dirais de façon sectionnelle. On a une section thème 1, une section thème 2, une section transition de thème 1 à thème 3, une section thème 3, etc. Donc les frontières sont très franches entre ces différentes sections. Et l'extrait qu'on a entendu, c'est le début de cette partie-là. Mais l'autre moitié de la pièce, ce que Reynolds avait appelé la partie domaine, je parlerai de la partie domaniale dans ce sens, oui, est organisée de façon beaucoup plus organique. Il n'y a pas ces sections très claires, sauf à quelques endroits. Et il y a un chevauchement entre les matériaux thématiques, organisation beaucoup plus organique, sans les transitions très franches. Et Reynolds voulait effectivement de traverser les matériaux musicaux de deux façons différentes. et d'essayer de voir quel était l'effet dans la grande forme de la pièce, qui dure 35 minutes, d'avoir soit en premier la partie sectionnelle et en deuxième la partie domaniale, soit l'inverse. Et effectivement, sur le CD audio qui accompagne le livre électronique sur le CD-ROM, il y a les deux versions, quand on peut apprécier l'effet de l'un sur l'autre et vice-versa.
Alors justement, ce panel d'auditeurs, est-ce que vous avez essayé de mesurer leur préférence entre ces deux versions ?
On avait fait deux choses. On avait joué dans le même concert les deux versions de la pièce, en premier, et puis une autre pièce qui n'avait rien à voir, et puis en dernier, la deuxième version. Et j'appelle les versions de la pièce SD et DS, parce que sectionnel domaine et domaine sectionnel. Et puis à San Diego, on avait joué les deux versions dans l'ordre inverse. Donc on a les deux versions dans les deux ordres et les deux moitiés dans les deux ordres. Donc ça fait plein de combinaisons possibles pour nous pour essayer de voir quel est l'effet sur l'expérience de la grande forme sur ça. Alors avec l'étude sur la reconnaissance des matériaux thématiques avec cette échelle de familiarité et nouveauté, on avait vu que les gens avaient des réactions différentes à la reconnaissance des matériaux thématiques dans la deuxième moitié en fonction de si c'était domaine ou section. Et effectivement, les reconnaissances étaient à peu près les mêmes des différentes sections pour la partie sectionnelle et la partie domaniale s'ils étaient en première position. Mais s'ils étaient en deuxième position, le fait d'avoir entendu la moitié domaniale en premier augmentait la perception des différents matériaux dans la version sectionnelle. Et par contre, dans l'autre sens, si j'entends la version sectionnelle en premier, dans la partie domaniale, ça baisse la reconnaissance. Curieusement, ça veut dire qu'on va de quelque chose de plus clair, de quelque chose de moins clair dans une version, et quelque chose de moyennement clair à quelque chose d'encore plus clair dans l'autre version. Et les gens préfèrent la version où on va de plus en plus vers la clarté. Donc, simplement, ce qui montre là, c'est que ces petits effets qu'on est en train de mesurer à l'instant dans la perception des gens corrèlent de façon significative avec leurs préférences. Donc, on préfère aller de quelque chose qui n'est pas complètement clair au début vers une clarté, que de commencer avec quelque chose de très clair et aller vers quelque chose qui est moins clair, en quelque sorte.
Mais la préférence, c'est subjectif. Est-ce que, justement, il y avait une subjectivité différente suivant votre public américain ou français ?
Sur ce point-là, c'était après le même résultat qu'on a obtenu dans les deux, sauf que les reconnaissances étaient un petit peu plus marquées chez les Californiens que chez les Parisiens, dans ce sens-là.
Et cette subjectivité, j'imagine qu'elle se traduit en termes d'émotion. Vous en parliez au tout début de cette émission.
Oui, effectivement, l'autre échelle qu'on a mesurée, pas sur les mêmes gens, parce qu'on ne peut pas juger à la fois les aspects cognitifs et les aspects affectifs et émotionnels chez la même personne. Ça demanderait à la personne de faire une chose avec une main et l'autre avec l'autre main, de scinder leur cerveau en deux en le faisant. Donc, ce serait une charge cognitive un peu trop lourde. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que certaines personnes répondaient avec une des échelles et l'autre moitié des participants avec l'autre échelle. L'autre échelle était sur ce qu'on appelait la force émotionnelle. On s'est intéressé, et ça, c'était surtout le compositeur qui nous a incité à développer cette échelle-là. Il voulait savoir pas nécessairement quelle émotion les gens percevaient, parce que ça, c'est toujours difficile à cerner avec la musique. On sent quelque chose de très fort, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Donc, ce qu'on avait essayé de faire, c'était d'avoir une échelle qui mesure simplement la force de cette expérience émotionnelle. Donc, on appelle ça la force émotionnelle. Donc, soit, à un moment donné, ce que je perçois est très faible, je suis assez blasé, soit c'est une émotion très forte, que ce soit positive ou négative, c'est pas de la grande peur, une très grande mélancolie, la colère, etc. Donc l'idée là, c'était simplement mesurer les variations dans la force de ce qu'on ressent quand on écoute la musique. Et évidemment, dans la musique, la chose qui est extraordinaire, c'est que ça peut varier d'une seconde à l'autre. On peut être à un moment très joyeux, à l'autre moment, c'est la grande mélancolie qu'on entend dans la musique. Que la musique procure pour nous cette sensation-là. Alors, ce qu'on a vu là, c'était une grande différence entre les Californiens et les Parisiens. Je dirais qu'il y avait beaucoup plus de variations dans la force émotionnelle chez les Californiens que chez les Parisiens. Alors, ce qui est difficile avec l'étude qu'on a actuellement, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle en psychologie des facteurs confondus. Les Parisiens écoutaient l'ensemble court-circuit, ici à Paris, et les Californiens écoutaient l'ensemble Sonore, qui était un groupe à l'Université de Californie à San Diego. Donc, est-ce que c'est les Californiens et les Parisiens qui sont différents, ou est-ce que c'est les instrumentistes qui ont interprété la musique différemment? On ne peut pas le décider, mais toujours est-il que court-circuit avec les Parisiens, il y avait moins d'effets émotionnels, il y en avait toujours, mais c'était moins marqué que chez les Californiens.
On ne sait pas si l'interprétation des musiciens, du chef d'orchestre, a un rôle prépondérant dans l'émotion, la force émotionnelle suscitée par l'auditeur.
Mon impression, c'est qu'effectivement, beaucoup lié à l'interprétation. Il y avait une sorte de, je dirais, carrément une différence entre une approche française très raffinée, très subtile, etc. Et puis l'approche californienne était beaucoup plus dynamique et beaucoup de contraste, etc. Donc il y avait une sorte de différence de style, en quelque sorte, entre les deux interprétations. Et ça pourrait être à l'œuvre dans la perception émotionnelle de ces choses-là.
Alors j'imagine que cette force émotionnelle, elle se traduit par graphique, par le biais de graphique. Est-ce que la force émotionnelle, elle intervient au moment où il y a des ruptures au niveau des rythmes, lenteur, accélération, ou alors quand il y a des temps forts? À quel moment ça intervient, ces forces émotionnelles?
Ce qui était intéressant, on avait travaillé avec un compositeur et mathématicien à l'Université de Californie à San Diego, qui s'appelle Shlomo Dubnov. Et lui, il avait effectivement pris le signal qu'on avait enregistré à chaque concert et il avait développé un certain nombre de prédicteurs. Donc, il a quantifié quelque chose dans la musique qui était corrélé avec le comportement des auditeurs en termes de force émotionnelle. Alors, ce qu'il avait trouvé, c'était qu'il y avait trois facteurs qui jouaient un grand rôle. Comme vous l'avez indiqué, c'était d'abord l'intensité de la musique. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est très faible? En force, donc c'est l'énergie de la musique. Donc quand on joue plus fort, ça provoque plus d'émotions que quand on joue de façon très douce. Était lié au timbre. Donc il y avait une sorte de détendue spectrale qui jouait un rôle. Donc quand on a par exemple toute l'orchestre qui joue et a beaucoup d'énergie à la fois dans les graves et dans les aigus, bon, en déployant tous les instruments par exemple, là il y avait plus de force émotionnelle que quand c'est très sombre, très doux, etc. Alors les deux marchent ensemble, évidemment. Et le troisième facteur, et là c'est intéressant parce que c'est plus lié à des aspects perceptifs et cognitifs, c'était lié à la prédictibilité du signal. Et il appelait ça le taux d'information. Et si ce que je perçois actuellement dans la pièce est facilement prédit de tout ce que j'avais entendu auparavant, il y a moins d'efforts émotionnels que si la musique est en train de me surprendre. Il y a quelque chose de moins prédictible. Alors, ce qui est assez curieux avec cette technique, Shlomo a montré qu'effectivement, la partie que joue chaque un de ces facteurs, est-ce que c'est l'intensité, est-ce que c'est le timbre, ou est-ce que c'est la prédictibilité, varie selon l'endroit dans la musique. Parfois, c'est l'intensité, parfois c'est le timbre, parfois c'est la prédictibilité, parfois c'est les combinaisons des deux, les trois. En quelque sorte. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'espace multidimensionnel sur lequel peut jouer le compositeur pour créer les effets émotionnels dans la musique.
Stephen McAdams, je vous propose de marquer une seconde pause au cours de laquelle nous allons pouvoir écouter un deuxième extrait de la partie do maniale. Et puis, peut-être que vous nous en direz un peu plus après cet extrait. Thank you. Stephen McAdams, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission éclairage sur The Angel of Death, l'ange de la mort, sujet sur lequel nous nous intéressons. Dans cette dernière partie, donc on a écouté à l'instant la deuxième partie de la pièce, qui est donc la partie domaniale, donc la partie organique, et plus compliquée, mais en même temps qui séduit le plus votre panel d'auditeurs.
Effectivement, là, c'était un extrait qui correspondait exactement à ce qu'on avait entendu pendant la première pause, sauf que c'est la même partie de musique, mais dans la deuxième moitié, la moitié domaniale. Effectivement, cette partie domaniale, quand c'est entendu en deuxième position, il pose plus de problèmes pour les auditeurs, parce qu'on avait déjà entendu tout de façon très claire, et maintenant, si on va vers cette partie-là en deuxième, ça devient moins clair, et il y a moins de préférence pour cette version. Par contre, quand on présente ça en première position, les gens sont en train de découvrir, donc ce n'est pas encore très grave si tout n'est pas très clairement présenté, parce que tout va se clarifier par la suite. Donc nous, on avait présenté ici la version sectionnelle en premier, dans la première pause, et la version domaniale dans la deuxième pause.
Vous avez insisté pendant la pause où nous avons discuté un peu sur l'importance de l'expérience à la fois intellectuelle et esthétique.
Effectivement, ce qu'on avait essayé de faire avec ce programme de recherche autour de cette pièce de Roger Reynolds était d'aborder des aspects plutôt perception et cognition, comme la reconnaissance des thèmes et la perception de la similarité musicale. Est-ce que ce que j'entends maintenant est semblable à quelque chose que j'ai déjà entendu? Mais comme je l'avais indiqué, la deuxième échelle qu'on a utilisée, c'est une échelle de force émotionnelle qui est plus liée à notre expérience affective et peut-être même esthétique de l'œuvre. Cet aspect esthétique et affectif est plus difficile à sonder, évidemment, et on cherche à le quantifier, étant des scientifiques, ce qui pourrait être senti comme une sorte de sacrilège, c'est certain. Comment est-ce qu'on peut quantifier l'ineffable dans la musique? Mais on essaie de le faire quand même. Et cette partie émotionnelle et esthétique est très importante à sonder parce que bien que ça fait partie de notre expérience de la musique, ce n'est pas la seule chose qu'on ressent dans la musique. On sent aussi, quand on écoute la musique, un plaisir intellectuel à découvrir les choses, à réentendre quelque chose qu'on a déjà entendu mais légèrement modifié, de reconnaître que c'est la même chose mais ça a changé, de se rendre compte de la façon dont ça a changé également, ce qui crée la trajectoire de développement musical dans le discours des compositeurs. Et ça, c'est accompagné effectivement de l'autre partie de notre expérience, qui est cette partie de qu'est-ce que la musique provoque chez nous en termes de perception de la beauté ou perception ou ressentiment d'une expérience émotionnelle. Et les deux vont ensemble et interagissent de façon extrêmement complexe.
La musique est à la fois une liberté et en même temps elle obéit à beaucoup de règles. C'est le principe même de la musique. Est-ce que justement ce sont ces règles qui font que l'on trouve la musique esthétiquement belle parce qu'on retrouve des vagues, des formules, des temps forts, des...
Je pense que c'est probablement la relation entre les règles, disons les règles syntaxiques de la musique et notre expérience esthétique est très fortement liée, mais je ne dirais pas que tout ce qui est prédictible, qui suit parfaitement les règles et que les règles soient complètement comprises par l'auditeur, serait très esthétique. Ça deviendrait un peu ennuyeux. Parce que si on sait exactement ce qui va se passer, ce n'est pas nécessairement la chose la plus intéressante. Il faut qu'il y ait assez de règles qu'on puisse les saisir et de savoir plus ou moins où va la musique, et puisque ça crée des attentes. Et parfois, ces attentes chez les bons compositeurs sont bien remplies, et puis on a la sensation que la musique va où on pensait que ça allait, mais parfois, ça nous surprend. Et ça génère également des effets émotionnels et esthétiques, ces surprises que font les compositeurs. Alors c'est la musique qui est le plus intéressant pour nous, c'est la musique qui a un certain degré de complexité qui n'est pas toujours complètement prédictible.
C'est la musique sérielle par exemple ?
La musique sérielle, certaines musiques sérielles, les pièces de Reynolds, ça marche très bien. Il y a d'autres musiques sérielles, surtout dans la période de la musique sérielle, où les intégristes du sérialisme, en quelque sorte, créent des séries de toutes sortes avec des choses qui n'avaient, par exemple, les séries de hauteurs qui n'avaient rien à voir avec les séries des durées, qui n'avaient rien à voir avec les séries des intensités, qui n'avaient rien à voir avec les séries des timbres, etc. Et là, il y a trop de choses pour l'auditeur à traiter et à suivre. Et en fait, cette surorganisation de la musique crée une sorte de chaos parce qu'on n'arrive pas à le comprendre.
Et qui donc provoque une réaction de rejet ?
Ou rejet, ou parfois d'ennui, tout simplement, parce qu'on ne comprend pas. Donc là, si les choses sont trop complexes, c'est ennuyeux. S'ils sont trop simples, c'est ennuyeux. Donc la complexité optimale se situe quelque part entre les deux. Et ça peut être différent pour chaque auditeur, en fonction de son expérience.
Nous arrivons déjà au terme de notre émission, puisque le temps passe très vite. Je voulais revenir à une des questions du départ que j'évoquais lors de la présentation de cette émission. Comment peut-on expliquer qu'une mélodie qui ne nous est pas familière, on puisse arriver à deviner la fin, par exemple, à deviner la suite ? Comment on l'explique ?
Ben, il y a beaucoup de processus de perception mélodique qui ont été explorés par les psychologues de la musique et également par les théoriciens de la musique. C'est des attentes mélodiques qui sont explorées. Il semble qu'il y a un certain nombre de processus de perception des séquences de sons qui font partie de la perception des formes en général. Et donc, si on est en train de créer une certaine trajectoire dans les notes, da-da-da-da-da, et j'arrête là, vous avez l'impression que je vais continuer. Okay, donc il y a une sorte d'attente que la mélodie continue. Ou si je fais un saut, on a en général, si on fait un saut, souvent on a l'impression que ça devait redescendre. Donc il y a certains principes comme ça qui semblent être assez universels dans la musique, ça marche dans la musique sérielle, ça marche dans la musique chinoise, ça marche dans la musique tonale. Et donc il y a des processus de base de la perception des formes dans le temps qui informent notre perception. Donc souvent, même si on ne connaît pas un compositeur de façon profonde, il y a certaines attentes mélodiques qui vont être à l'œuvre parce que notre cerveau est construit comme ça.
Eh bien, je vous remercie, Stephen McAdams, de nous avoir accordé tout ce temps pour nous donner quelques explications. Peut-être souhaitiez-vous rajouter quelque chose sur cette expérience qui était donc réalisée en 2005. En tout cas, vous avez réalisé ce CD-ROM The Angel of Death. Peut-être souhaitez-vous rajouter quelque chose sur ce CD-ROM ?
Je dois dire que le merveille de cette expérience, c'était de travailler en très étroite collaboration avec un compositeur qui, lui, était très ouvert à notre entreprise scientifique. Et on a travaillé la main dans la main, je puis dire, pendant plusieurs années pour réaliser ce projet. Et c'est tout à fait quelque chose de magnifique où les sciences et les arts travaillent ensemble pour réaliser un but qui est comprendre l'esprit humain.
Donc nous avons pu écouter quelques extraits. J'invite nos auditeurs à se procurer ce CD-ROM que l'on trouve à l'IRCAM. Il est édité en 2005 et c'est donc The Angel of Death par Roger Reynolds. On trouve également votre nom, Stephen McAdams. Je rappelle également le titre de l'ouvrage qui m'a servi aussi à préparer cette émission, qui s'intitule donc « Penser les sons, psychologie cognitive de l'audition », ouvrage que vous avez rédigé en compagnie d'Emmanuel Bigand, publié aux presses universitaires de France en 1994. Et peut-être travaillez-vous déjà à la rédaction d'un prochain ouvrage ?
Je prépare actuellement, dans le cadre de la chaire Dupont et des conférences de prestige de l'Université de Montréal, justement un livre sur la psychologie cognitive de la musique qui sera publié par les presses universitaires de l'Université de Montréal, probablement en 2009.
Eh bien, merci de nous avoir donné tous ces détails. Et puis, j'invite nos auditeurs à télécharger cette émission et à aller voir sur le site de l'IRCAM l'objet de vos travaux. Merci beaucoup et à une prochaine fois.